des choses. La revue sonore.
Le grain des choses est une revue sonore à feuilleter avec les oreilles. Par les chemins de la création, elle voyage du documentaire à la fiction, des grands entretiens au journalisme au long cours, de la poésie au paysage sonore, pour faire entendre le grain des choses. La revue sonore et Fréquence Mistral se sont rencontrées pour faire un bout de chemin ensemble. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Puy-Saint-André est une commune du Briançonnais, en France. L'équipe municipale est en place depuis 12 ans. En 2021, sort le livre de Pierre Leroy, l'un de ses membres. Son titre, Passage délicat, penser et penser le territoire. Il y raconte son parcours personnel et aussi les grands chantiers entrepris sur la commune et plus largement. Énergie, eau, biodiversité, agriculture, foncier en font partie. Puy-Saint-André, c'est là que j'ai grandi. Un matin d'octobre, je monte à la mairie pour rencontrer Pierre Leroy et Alain Prouvé, le premier adjoint de la commune. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre ?
Que dire, moi j'ai été maire de cette commune pendant 12 ans de mandat.
Pierre Leroy.
J'ai été vice-président d'une communauté de communes qui regroupe 13 communes. Aujourd'hui je suis ce qu'on appelle conseiller délégué de cette communauté de communes. Et je suis président du Pays Grand Briançonnais qui regroupe 3 communautés de communes et 36 communes. C'est un superbe territoire, c'est un peu plus d'un tiers du département des Hautes-Alpes avec le parc des Écrins, le parc du Quairat. Ça regroupe le Guiestrois, le Quairat, le Pays Écrin et le Briançonnais. Et puis de profession, j'étais, parce que je suis en disponibilité depuis 13 ans, j'étais cadre de santé. Donc le soin, ça me parle. J'ai travaillé 25 ans en milieu hospitalier, plus précisément au bloc opératoire, aux urgences, mais j'ai été aussi responsable d'un service de chirurgie orthopédique. Et puis à la fin, j'étais prof à la fac, je formais des infirmiers, des aides-soignants, sur le Briançonnais.
Je vais commencer plutôt par mes origines. Donc, je suis à moitié d'origine
Alain Prouvé.
Par ma mère donc de ce pays du Briançonnais. J'ai fait des études qui ne devaient absolument pas me mener à vivre à Briançon. Et après quelques années justement d'application, si je puis dire, de ces études dans la vie active, j'ai renoncé. Et je suis venu vivre à Briançon. Vivre à Briançon, c'était inventer d'autres occupations, si je puis dire, professionnelles. Donc, et j'ai créé un atelier d'agencement et de mobilier. C'était un peu une tradition familiale. J'ai quitté Briançon parce que Puy-Saint-André, c'est vraiment la commune la plus ensoleillée, si je puis dire, de notre communauté de communes. Et tout de suite, la vie communautaire à travers donc une mairie m'a pris, parce que vivre c'est une relation aux autres d'abord. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Pierre, mes conseillers pendant 12 ans et maintenant premier adjoint.
Par rapport au territoire dans lequel on est, est-ce que vous pourriez le présenter ?
Puis Saint-André est au milieu de la communauté de communes, et cette communauté de communes, elle est vraiment à l'extrémité de la région sud, PACA, c'est-à-dire qu'on est à la frontière italienne. La frontière, elle est à 14 km depuis Saint-André. Donc on est au bout du bout, de plein de bout.
Extrémité nord, Pierre.
Excuse-moi. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant d'être au bout des choses, parce qu'on est au pied du mur aussi. Et ça crée aussi, je pense, des identités particulières. Et dans les fonds de vallée, on le voit bien, hein, il y a des caractères. Voilà. Oui. Et là, c'est un petit peu ça aussi, hein, puis Saint-André, parce qu'on est au bout de la route aussi. C'est-à-dire que c'est une voie sans issue. Quand on monte ici, on habite à 1520 mètres d'altitude, le chef-lieu. Il y a un petit hameau au-dessus qui s'appelle Puchalvin. Puis après, il y a un hameau d'alpage au Combe, qui est à 1850 mètres, je crois. Puis au-dessus, il y a la réserve régionale des Partias, et là-haut, on est à 2945 mètres d'altitude. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il y a une diversité en termes de biodiversité qui est intéressante, parce que ce n'est pas du tout la même chose en bas comme en haut, et ça fait la richesse aussi de notre territoire. Ouais.
Vous faites beaucoup l'analogie entre le maire, qui est responsable de la santé publique, le rapport aux soins, le patient, le citoyen.
En effet, c'est le monde dont je viens. Le monde de la santé. Et puis, pour expliquer l'origine de cet ouvrage, c'est une commande. Il se trouve que les éditions Actes Sud, pendant 3 ans, m'ont un peu tanné pour sortir ce livre. Ils avaient pris rendez-vous à la mairie un jour en disant « On a entendu parler de ce que vous faites sur Puy-Saint-André, on a envie d'en discuter avec vous. » Et la discussion a duré 4 heures. Et après, on s'est revus régulièrement et ils ont vraiment eu envie qu'on puisse témoigner de ce qui se passe ici, dans ce petit laboratoire, en quelque sorte. Et moi, je ne me sentais pas du tout en capacité d'écrire. Puis en plus, je n'avais pas le temps. Donc le temps a passé, puis paf, est arrivé le confinement. Donc voilà. Donc en fait, la commande précise, c'était de comprendre un parcours personnel sur l'écologie. Puis derrière, ils souhaitaient aussi que ça puisse être un outil d'aide à la mise en fonctionnement, la mise en route face au changement pour les citoyens et pour les élus. Donc ils ont voulu comprendre mon histoire. Donc elle a un rapport en effet avec la santé et la maladie. Donc il se trouve que moi, à 23 ans, ma femme est tombée gravement malade. Et en fait, ça a été une ouverture justement sur la santé environnementale. Et c'est là que j'ai lu tous les auteurs en rapport avec ça. Puis il se trouve qu'après, j'ai été aussi au contact avec des jeunes, des adolescents, jeunes adultes, qui avaient une espérance de vie très courte quand j'étais dans une maison d'enfants sur le Briançonnais, parce qu'ils étaient atteints de mucoviscidose. Enfin, tout ça m'a mis dans le milieu. Puis ensuite, j'ai été en effet infirmier. Et j'ai eu une carrière à l'hôpital de Briançon. Et donc, prendre soin, pour moi, c'est pas rien. C'est le care. Et on a été formés, nous, et pas mal d'ailleurs d'élus qui travaillent sur la transition écologique viennent du monde soignant. Et en fait, je pense qu'on a cette expérience et cette formation du diagnostic, déjà. De l'empowerment, c'est-à-dire de redonner le pouvoir aux patients, là, en l'occurrence, aux citoyens, pour justement faire avec et construire, co-construire, répondre aux besoins primaires aussi des populations. Donc quelque part, ça fait partie de notre ADN. Et moi, j'ai toujours eu la sensation de continuer tout simplement mon métier. Et donc c'est ce travail que nous avons essayé de mener avec cette équipe depuis 13 ans maintenant, d'essayer de comprendre notre territoire, quels sont ses atouts, quelles sont ses difficultés, et d'essayer de se projeter aussi dans l'avenir, en tout cas de préparer notre territoire aux enjeux qui sont là devant nous. Voilà.
En tout cas, dans les propos que disait Pierre tout à l'heure, qu'effectivement, il est soignant, donc par nature, lui, il est tourné vers l'autre. Et moi, il y a une petite chose qui me vient à l'esprit, c'est normalement, lorsqu'on va voir un médecin, c'est parce qu'on est malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être malade ? Je prends, par exemple, la médecine chinoise, c'est une médecine qui prévient les choses. Je me verrais plutôt dans cette situation d'essayer de prévenir, parce que faire infuser tout ce qu'on va développer, c'est une chose très, très longue, et c'est un peu cet espace-temps entre l'immédiat aujourd'hui, on n'est pas malade. Et en fait, si, on l'est vraiment, mais cette notion de temps, elle est très dure à prendre en compte par les citoyens.
Les symptômes sont divers aussi, ils ne touchent pas tout le monde de la même manière.
Exactement.
C'est pour ça qu'on parle de prendre soin, du care. C'est-à-dire, on ne dit pas soigner, mais prendre soin, c'est-à-dire d'essayer de faire que, là en l'occurrence, le citoyen, il ait tous les éléments à sa disposition pour comprendre les enjeux et ensuite pour pouvoir agir. Oui. Donc on est dans ce paradoxe où à la fois il faut aller vite, mais doucement. Parce qu'il faut arriver à l'assimilation, à la compréhension des enjeux, et puis accepter aussi le changement de pratique. Et on le sait, hein, le déni, les résistances au changement, et c'est complexe. Donc on ne peut pas brusquer, on ne peut pas... Souvent d'ailleurs, on s'est dit entre nous, peut-être on va trop vite. Alors que, ben, il faut quelque part aller vite, hein, mais on ne peut pas brûler les étapes. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Comme je le dis souvent quand je suis au ministère, la transition écologique ne sera que si elle est démocratique. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Mais en fait, ce livre, c'est une randonnée. Hein. C'est 40 ans. De rencontres, d'accompagnement, de formation, de tenter de comprendre. Et puis après, beaucoup de luttes aussi. Hein, parce qu'au début, en effet, en tant que militant, on fait contre, jusqu'au moment où on se rend bien compte que c'est pas ça qui va nous nourrir et qui est satisfaisant de faire contre, mais de faire pour. Et c'est comme ça qu'on a décidé tous ensemble, en 2007, de se retrouver pour tenter d'imaginer le village désirable. Et puis une fois qu'on a commencé à l'imaginer, bah, du coup, on a envie de le mettre en œuvre.
Le grain des choses. La revue sonore.
Au début, on débarque, on n'a jamais été élu, on essaie de comprendre comment ça marche. C'est pas simple, il faut du temps pour comprendre tout ça. Et en fait, on a commencé par prendre les sujets les uns après les autres. Et le premier sujet sur lequel on s'est emparé, parce que c'était pour nous quelque chose d'important, c'était l'énergie. Donc, puis l'énergie, c'est aussi l'énergie de faire. Et d'emblée, on a voulu le faire avec les citoyens. Donc ça a été, on est allé vers les citoyens en leur faisant des propositions.
Il y a vraiment une révolution, quelque chose qui doit advenir et qui est parfois pas sujet de conflit, mais en tout cas qui est bien discuté.
Hein. C'est de la dentelle. On tricote tout doucement du lien, on tricote des rapports entre les gens. Et je suis en contact avec beaucoup d'élus d'un peu partout hein, qui demandent comment, par quel bout on prend l'affaire, comment on met en place la transition écologique avec, je le sens, moi, une volonté d'aller vite. Et c'est là, c'est complexe, parce que par définition, elle est complexe au sens d'Edgar Morin. Hein, c'est vraiment, c'est la complexité. Et pour ça, ben, c'est le temps court et le temps long.
Pour ça, c'est aussi passer par des choses très très concrètes. Ouais. Vous parliez de l'énergie. Je pense que c'est bien que vous nous racontiez un petit peu cette question de la ou du sève. C'est masculin ou
c'est la sève, comme la sève de l'arbre. Hein. Ouais. C'est soleil, c'est... eau, vent, énergie.
Et ça fait du féminin à la fin.
Voilà, exactement. Oui, c'est parfait.
Ça commence par du féminin parce que nous disons la sève. C'est une société d'économie mixte.
Et l'énergie, c'est un des éléments des besoins primaires. Et donc, on a proposé à la population, bah, tout simplement, de travailler sur ce sujet. En parallèle, on a travaillé sur le principe de négawatt, dont le premier pilier est de baisser les consommations, de faire preuve de sobriété. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a un passage sur l'éclairage public, voilà, où ça a été un échec temporaire. Bref, on a baissé fortement, près de 40% la consommation d'énergie de la commune. Et parallèlement, on a demandé aux citoyens s'ils acceptaient de partir dans cette aventure, de produire l'énergie qu'on consomme. Et c'est ce qui s'est fait à Puy-Saint-André sur cette toute petite société qui était la première en France C'était la première société d'économie mixte qui associait des citoyens.
D'accord, parce que c'est pas rien de créer une société.
Je crois qu'on a une certaine naïveté. Des fois, on a l'idée, puis on se dit, on verra bien ce qui se passe. Oui. Faisons un pas, puis on verra. Là, on a fait un pas vers les citoyens. Ils ont dit, banco, ça nous intéresse. Il y avait 35 familles, on dit, ouais. Du coup, on a fait le pas suivant, puis le suivant. Puis là, on s'est rendu compte que... c'était sérieux, qu'il fallait faire les choses correctement. Et c'est comme ça qu'on a appris aussi, on s'est formé. Et petit à petit, cette société aujourd'hui, elle a fait une ouverture à capital. On est à 870 000 euros de capital social. Donc il y a une communauté de communes, il y a d'autres communes, il y a des sociétés, du BTP, et puis d'autres citoyens qui sont rentrés. Il y a des citoyens qui ne font pas partie des habitants depuis Saint-André. Et donc là, on a une vingtaine de centrales qui sont reliées au réseau. Et on a surtout des projets en hydroélectricité, des projets en éolien sur le territoire qui sont complexes, mais sur lesquels on travaille.
On a un projet éolien, effectivement. Mais bon, oui, ce projet, nous sommes donc sur le domaine de Serre-Chevalier. C'est-à-dire qu'il y a un bout de la commune où il y a... partie du domaine skiable. Nous sommes la partie vraiment sud. La sensibilité de la commune a un peu déteint sur Serre-Chevalier, dans le sens où on est juste en limite de la station et on présente une réserve naturelle.
Donc juste pour préciser ceux qui ne connaissent pas la région, donc puis Saint-André a des crêtes communes avec une vallée qui est une vallée de ski intensif, de tourisme intensif, où beaucoup de Belges notamment viennent skier.
Exactement, exactement.
C'est pour ça qu'ils connaissent aussi la région. C'est une dynamique très particulière.
C'est une économie tournée vers le ski. Donc, c'est l'or blanc, y compris pour les communes du Pied-de-Vallée. Donc, nous avons souvent eu des rapports avec la direction de Serre-Chevalier pour partager nos expériences. Ils ont partagé notamment des plantations d'arbres sur notre réserve. Il y a eu deux petites éoliennes qui ont été installées à Skoll par Serre-Chevalier-Vallée. Et le projet est né d'envisager, je dis bien, une éolienne beaucoup plus puissante, beaucoup plus grosse, dans la mesure où il y aurait un équilibre entre la production et la consommation, au sens où l'énergie produite serait directement réinjectée dans le domaine skiable. On pourrait presque dire que les gens qui verraient cette éolienne tourner sur ce haut de cette crête seraient les consommateurs de cette énergie. Pierre, peut-être que tu peux plus...
Je pense que le plus important, c'est ce que tu dis, c'est les choix philosophiques, dans le sens où on essaie, à travers le plan climat, parce qu'on a un plan climat territorial, au niveau du pays Grand-Briançonnais, de faire comprendre aux citoyens que, voilà, on consomme de l'énergie, on produit de l'énergie. Quel est le gap entre les deux ? Et on est loin de produire l'énergie au jour le jour dont on a besoin. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'énormément de sobriété, d'efficacité énergétique aussi, pour consommer le moins possible. Et une fois qu'on sera vraiment à l'os de nos consommations, il faut quand même qu'on produise. Et là, quels sont les compromis qu'on fait, sachant qu'aucune énergie renouvelable n'est propre, toutes ont un impact carbone, ont un impact paysager, ont de multiples impacts de biodiversité, etc. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens prennent la mesure, soient informés, fassent preuve de responsabilité et fassent des choix. Quel compromis on accepte ? Jusqu'où on va dans l'hydroélectricité ? Jusqu'où on va dans l'éolien ? Jusqu'où on va dans le photovoltaïque ? Et l'objectif, c'est de rassembler des populations qui ont des visions du monde parfois totalement différentes, mais de les mettre autour de la table et que chacun ait les informations qui lui permettent de décider ensuite des choix sociétaux.
Beaucoup de vallées ont été dépeuplées de leurs agriculteurs, à part certains résistants. Vous faites revenir des agriculteurs à Puy-Saint-André. Comment ça se passe ?
Nous, on a cette perception que la crise climatique, et on l'a vu avec la crise sanitaire, de l'importance justement de consommer local. Et ça, nous, ça fait longtemps qu'on a ce sentiment que demain, il va falloir subvenir à nos besoins. Et donc, le premier besoin, c'est manger et boire. Et donc, dans quelle mesure notre territoire, alors je ne parle pas depuis Saint-André, mais plus globalement sur le pays Grand-Briançonnais, l'autonomie alimentaire, elle est 2 jours sur 363 jours. Comment, dans un pays soi-disant développé, on peut se satisfaire d'une autonomie aussi restreinte ? Et donc, dès le début, en 2008, on a commencé doucettement à travailler là-dessus, en passant des conventions, en particulier avec la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier, et avec la Chambre d'agriculture, pour essayer petit à petit de travailler tout ça. Et au tout début, tout le monde nous disait « Mais l'agriculture, mais c'est terminé ça ! Pourquoi vous travaillez sur l'agriculture ? C'est fini !» En effet, elle a pris avec l'or blanc, comme disait Alain. Ça a été en effet une catastrophe sur le territoire. Hein. C'est même nos paysages, quelque part, qui étaient en danger. Hein. Nous, on a voulu réintroduire ça.
Et l'élevage.
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'arriver petit à petit à préparer la suite. Donc, la clé, c'est le foncier. Ce qui veut dire qu'on a fait un gros travail qui, je pense, est unique en France, hein, pour récupérer le maximum de foncier qui, pour la plupart, a été abandonné sur le territoire. Parce qu'en fait, bon, il y a eu plein de raisons. Hein, l'incendie de 1927 à Puy-Saint-André, où sur la totalité des maisons, il en restait 3 ou 4 debout. Hein, donc, ça a été la fuite, l'exode à Grenoble, à Lyon, à Saint-Chamas, dans les mines. Enfin bon, les gens ont quitté. Donc, il y a eu ça, mais il y a eu aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec l'or blanc, le fait que toutes les terres ont été abandonnées. Hein, les gens ont arrêté d'être agriculteurs. Donc, il y a eu une déprise sur le territoire, avec derrière des risques d'incendie, avec d'autres risques, hein, qui ne sont pas anodins, hein, quand même. Hein, quand on voit les méga-feux qui se développent un peu partout, quand même, il y a une petite inquiétude, hein, là. Et surtout, il y aura des besoins demain alimentaires sur les territoires. Donc, ça veut dire qu'on s'est dit, on va essayer de créer du commun et de mettre comme ça toute cette capacité de capter du foncier pour le mettre à disposition. Donc là, c'est comme ça qu'il y a eu les vergers participatifs. Et puis, l'objectif, c'est aussi petit à petit d'installer ou de réinstaller des agriculteurs sur le territoire. C'est pas simple. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre de son activité agricole. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous.
Quatrième de couverture, les randonneurs en montagne savent que l'expression « passage délicat » mentionnée sur les cartes topographiques indique un danger potentiel qui exige de redoubler d'attention, de coopération et de fraternité dans l'action. C'est assez beau la façon de faire un lien, le danger potentiel avec la situation qu'on est en train de traverser. Et puis, redoubler d'attention, c'est aussi un rapport très fort aux soins.
Mais le titre, je ne vous cache pas qu'il a été négocié âprement avec les éditions Actes Sud. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai réalisé que nous, montagnards, on n'a pas nécessairement la même notion de passage délicat que quelqu'un qui vit en plaine. Pour nous, un passage délicat n'est pas quelque chose de péjoratif. Quand on regarde les topos avant d'aller en montagne, on repère le passage délicat. Quand on aborde le passage délicat, on s'arrête, on s'observe. Une fois que tout le monde est prêt, on décide ensemble d'y aller. Et derrière le passage délicat, l'objectif, c'est d'avoir un monde désirable, d'avoir un paysage qui nous attire, sur lequel on a rêvé, hein, parce qu'en faisant les topos, on s'éclate à rêver. Hein, là. Pour nous, c'est une perspective joyeuse que pour qu'on passe ce passage délicat-là, d'avenir de l'humanité, eh bien, c'est pas nécessairement des larmes et du sang, parce que sinon, on va avoir du mal à mobiliser.
Là, la différence, peut-être, c'est que ce passage délicat, il est obligatoire. On a tous plus ou moins la capacité d'essayer de passer. Et lorsque l'on est aguerri à la montagne, on passe un passage de 5 sub, 6, voire plus. Simplement, si on doit faire passer d'autres personnes, ça passe forcément par un apprentissage de la personne pour passer des passages qui lui semblent trop. Et je crois qu'on est dans cet apprentissage. Voilà.
Pour que ce passage délicat, comme dit Alain, il puisse bien se passer, il faut l'anticiper. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les topos. Il faut s'entraîner, il faut prévoir, il faut s'équiper. Le temps nous est compté parce qu'il y a déjà 60% de la biodiversité qui a disparu. Il y a déjà des réfugiés qui meurent là dans le Briançonnais lors de leur transit. Hein. Déjà, il y a de la casse. Hein.